Bonjour, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec quelqu'un que nous connaissons bien, c'est la romancière Michèle Dassaz. Bonjour Michèle.
Bonjour.
Je dis que nous connaissons bien parce que vous êtes résidente secondaire à Pornichet, vous connaissez bien la presqu'île. Vous êtes l'auteur de plus d'une quinzaine d'ouvrages, dont 9 romans. Vous avez eu la médaille d'or du mérite littéraire de l'association Art et Lettres de France pour l'ensemble de votre œuvre. Et on va parler de votre dernier livre. J'ai passé vraiment un excellent moment en le lisant, c'est publié aux éditions Ramsay. J'ai passé un excellent moment parce que je me suis dit... Alors, en retournant les pages, il y a parfois des images de contes de fées qui vont à l'encontre des clichés, des idées reçues dans le dîner de l'exposition. Et je vais vous dire pourquoi tout au long de cet entretien, Michèle. Le dîner de l'exposition, d'abord, est-ce qu'on trahit un secret en disant que c'est une histoire vraie? C'est ça,
alors. Non, c'est justement une histoire vraie. J'aime bien ressusciter des personnages qui ont vraiment vécu et qui ont une histoire quelquefois fabuleuse, mais qu'on ne connaît pas. Et le dîner d'exposition, c'est effectivement un restaurant à prix fixe, à prix unique, qui a été créé pour l'exposition universelle de 1855.
Voilà, et c'est le cadre aussi. En fond, il y a l'histoire d'Aurélia.
Aurélia, oui, c'est cette jeune femme d'une très belle qui vient des îles.
De Guadeloupe.
De
Basse-Terre, c'est ça?
Oui, de Basse-Terre, où son père, qui est vice-consul des États-Unis en Guadeloupe, vit avec sa mère, qui est une mulâtresse affranchie.
Donc notre expliquez-nous ce que c'est, il y a beaucoup d'auditeurs qui
alors,
savent.
Voilà. Eh bien, tout simplement, c'est une jeune femme qui est donc, Aurélia est carteronne, donc elle a un quart de sang noir, puisque sa mère, et qui est née esclave.
La mère d'Aurélia
est née esclave,
oui.
Et elle a été... prise au service donc de Charlemagne Saint-Aurille-Lacour, ce fameux vice-consul des États-Unis en Guadeloupe, qui va tomber éperdument amoureux de sa servante et qui, à la fin de sa vie, l'épousera. Mais quand il tombe amoureux de cette femme, il la prend à son service et tout de suite ils vont avoir cette petite fille, cette Aurélia qu'il va élever.
Donc il était amoureux d'elle, mais ils avaient déjà quand même
déjà
des rapports intimes.
Ça a été un coup de foudre. Ça a été un coup de foudre vraiment.
Quelle était la situation de des Guadeloupéens à cette époque?
Alors justement, elle naît, comme je vous dis, elle naît esclave parce que l'esclavage n'a pas été aboli quand elle
on
naît.
On était encore sous le code.
Oui. Et
sous le code noir.
Exactement.
Qui était déjà un pas vers.
Oui. Et puis déjà le statut. Alors quand Aurélia naît, le statut a déjà évolué, mais comme elle est sous la protection de son père et qu'elle est enfant unique d'ailleurs, donc elle va vivre une vie très privilégiée, et on va lui donner une certaine éducation. D'ailleurs sa mère elle-même a bénéficié de l'éducation des sœurs et c'est pour ça que sa mère sait écrire, sait lire. Sa mère a déjà bénéficié de cette émancipation entre guillemets qui va permettre à Aurélia d'imaginer, et surtout au père d'Aurélia, d'imaginer un destin, on disait en France, puisque c'était la colonie, la Guadeloupe à l'époque, donc son père veut lui trouver un mari en France.
Quel était le statut des esclaves à l'époque? Parce que quand on dit le mot esclave, ça veut dire tout et beaucoup de choses.
Oui.
Pour maintenant, beaucoup de jeunes qui vont nous écouter, si vous dites esclave, on va penser à des gens qui tournent des trucs avec des fouets,
des
gens qui meurent de faim et un quignon de pain.
Non, c'était fini.
Ça voulait dire quoi? Est-ce qu'était la vie
quotidienne? Ça dépendait également des familles qui les employaient. Mais il y avait beaucoup de... ils étaient employés. Et puis quand ça
employés,
va... Employés,
mais sans vraiment de droits, c'est ça?
Oui. Et puis, il y avait...
Dans on les frappait pas, ce que je veux dire.
Ah ben non, c'était.
Ah non, mais moi je vous pose des questions, vous savez, vous allez interroger.
Oui,
les
oui.
Gens, vous...
Non, je pense que c'était fini. Il y a peut-être eu des abus, comme il y avait des abus en France à la même époque, des employés qui étaient sûrement maltraités, mais il y avait également beaucoup de planteurs qui traitaient bien leurs employés. Et là, dans le cas précis, non seulement il va bien la traiter, mais il va la considérer comme son épouse, la mère d'Aurélia. Mmh. C'est celle qu'on appelle Titine, Geneviève oui. dite Titine, qui était très belle aussi, et puis très bonne. Donc, il n'aura qu'un enfant, c'est cette Aurélia qu'il va chérir vraiment et aider tout au long de sa vie.
Aurélia naît en 1826.
Oui. Voilà. Elle naît en 1826 et elle finira ses jours donc avec la fin du siècle. Mais entre-temps, elle va connaître vraiment une vie hors norme. Et c'est ça que j'ai voulu raconter. Parce que cette femme qui a un seul désir, c'est de gravir les échelons dans la société et donc... aidée surtout par sa mère et son père. Quand son père l'amène à Paris, elle est très belle. Elle a reçu une très bonne éducation, donc elle est cultivée. Et bien sûr, elle va faire sensation dans les salons parisiens. Elle n'a que 20 ans. Et à 20 ans, dans tout l'éclat de sa beauté, elle va séduire un jeune aristocrate parisien. Ça va être également encore un coup de foudre. Décidément, c'est dans la famille, les coups de foudre. Donc, cet Édouard Eugène Ventre d'Auriol, qu'elle va séduire, va ensuite lui donner, tout va bien se passer, va lui donner deux enfants. Mmh. Et puis bientôt un troisième, mais à ce moment-là va se déclencher le scandale du dîner de l'exposition.
On va en parler. La famille d'Auriol, parlez-nous-en.
C'est une famille d'aristocrates.
Ça n'a rien à voir avec Auriol sans le D.
Non.
Apostrophe avec le président.
Non, alors c'est pareil. Ah non, rien à voir du tout. Oui. C'est une famille d'aristocrates. Les d'Auriol et alors je dis Ventre d'Auriol parce qu'il y a la famille, il y a la branche d'Auriol pure et Ventre d'Auriol, il a en fait quelque part, déjà il est un petit peu malhonnête quelque part parce qu'il a pris le nom de, il s'appelait Ventre et il a pris le nom d'Auriol de sa mère et se fait appeler Ventre d'Auriol et d'ailleurs même au départ Ventre dit d'Auriol. Après le dit va partir, ça va être Ventre d'Auriol, voilà. Donc lui aussi c'est un jeune avocat, lui aussi il veut briller dans les salons parisiens, ce qu'il va faire d'ailleurs puisqu'il est beau, il s'exprime très bien et il a beaucoup de succès auprès des femmes. Donc tout va très bien jusqu'à ce scandale du dîner de l'exposition.
Alors c'était pendant l'exposition
universelle de 1855.
1855.
Alors, c'est pour ça que à cette époque-là, tous les gens veulent croire dans l'avenir, dans le progrès. Ces expositions sont vraiment le reflet de tout ce qui se fait de nouveau et de beau. Et lui, il songe à quelque chose de nouveau. Le restaurant à prix fixe a déjà, enfin c'est déjà une idée qui, dans le dîner de Paris, il y a déjà un restaurant qui s'appelle le dîner de Paris, il y a déjà un restaurant à prix fixe qui est une amélioration très considérable puisque les gens peuvent déjeuner pour 5 francs, voilà tout compris. Mais lui il songe à quelque chose, c'est de faire quelque chose encore beaucoup plus grand, le plus grand restaurant de France et pourquoi pas le plus grand restaurant d'Europe. Il a de grandes ambitions, quelque chose d'extrêmement luxueux. Il faut trouver des capitaux, il faut trouver des actionnaires et il lance la société générale de gastronomie qui va parrainer cette opération.
L'ancêtre du groupe Accor en quelque sorte.
Oui. Et donc alors on voit dans les journaux d'époque beaucoup de publicité pour cette société générale de gastronomie, ce fameux dîner d'exposition qui va attirer énormément de monde. Il fait acheter deux immeubles dans le centre de Paris près de l'opéra. C'est très fastueux et d'ailleurs quand il s'ouvre pour l'inauguration, Aurélia est émerveillée de voir. Et il y a une, aussi un sens du progrès, de la modernité extraordinaire, parce que il y a des, tous les, une sorte de tapis roulant qui apporte les mets directement aux clients. Donc avec de la vapeur, on vous apporte les mets, c'est très moderne ça, mais ça coûte très cher tout ça. Mmh. Et oui.
Arrive donc le dîner de l'exposition, oui. Le scandale.
Oui, le scandale, bon, il n'a pas eu de chance non plus. Il y a un locataire récalcitrant qui a fait retarder les travaux parce qu'il n'a pas voulu. Bon, il y a eu quelques petits ennuis. Ils sont obligés de nouveau de faire appel à d'autres actionnaires. Les actions baissent, on rachète, ils rachètent des actions. Il y a tout un montage financier qui va s'écrouler. Et le restaurant, qui a du succès au départ, va bientôt fermer ses portes, oui, et faire faillite.
Ensuite, on revient à Aurélia et son destin, parce que oui. C'est aussi ce qui nous intéresse, oui. C'est le personnage central de ce livre. Elle devient très vite une grande dame.
Alors, elle devient très vite, oui, elle a beaucoup de succès, tout va bien, justement, jusqu'à ce... Alors là, elle comprend pas très bien, elle s'apprête à accoucher de son troisième enfant, et elle comprend pas très bien pourquoi les gens, tout d'un coup, lui font grise mine, pourquoi on l'invite moins. Alors, son mari lui dit, c'est parce que il a dit qu'elle est fatiguée, c'est pour ça que on l'invite moins dans les salons.
Elle n'est pas au courant du scandale financier.
Elle s'en aperçoit qu'à la dernière minute, quand ça s'étale dans les journaux.
Cas,
et puis, oui.
C'est le cas de façon oui. contemporaine.
Oui, bien sûr. Et il faut qu'elle assume tout cela, parce que c'est tout un monde qui s'écroule. Elle pensait être arrivée au sommet, donc avoir réalisé son rêve de petite fille. Et puis, donc, il faut qu'elle assume maintenant, parce que son mari fuit. Voilà, il s'enfuit en Angleterre. Alors il dit, la version officielle c'est qu'il est parti aux Amériques, n'est-ce pas ? Mais en vérité, il est parti en Angleterre.
Et elle a quand même été mariée. Hein, voilà.
Ah oui, elle était mariée, oui. Elle s'est mariée tout de suite dans les mois qui ont suivi son arrivée à Paris.
Que se passe-t-il ensuite avec Aurélia, c'est ça?
Alors, elle est restée.
Elle arrive quand même.
Elle est restée, mais on la soupçonne du moins. Elle est jugée
d'être complice de cette faillite.
Alors qu'elle n'est absolument pas complice. D'ailleurs, l'avocat qui la défend va pouvoir montrer prouver qu'elle n'est pas complice. Mais maintenant, il y a l'opprobre général, il y a le fait qu'elle peut plus rester vivre à Paris. Elle n'a plus vraiment de moyens de subsistance, à part les quelques économies que lui a laissées son mari. Et puis, heureusement, il y a son père, il y a Charlemagne qui vient à son secours.
Est-ce qu'à l'époque, on va parler franchement maintenant aussi, puis des questions très contemporaines vu l'actualité, on était donc en 1850, est-ce qu'à l'époque, dans ses jugements, dans ses relations quotidiennes, le fait d'être noire, ça lui posait un problème, elle était regardée différemment, est-ce que c'était un handicap très clairement, ou finalement pas autant qu'on pourrait l'imaginer.
Alors, d'abord, elle était, comme je me disais, elle était quarteronne. Elle avait très peu, elle était juste un peu basanée. Elle était très belle.
Là où. Oui, mais à l'époque, il fallait être blanc.
Oui. Mais enfin, là, elle pouvait passer pour une fille du Sud. Mmh. Hein, oui, non. Et puis, elle s'appelait Ventre d'Oriole. Non, personne. Mais là où c'est ressorti, c'est au moment de son jugement. C'est là qu'on lui a montré ses origines. Et qu'en fait, on lui a dit que son père ne l'avait jamais reconnu. Effectivement, son père ne l'avait jamais officiellement reconnu. Elle sera reconnue beaucoup plus tard, parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. Il l'avait élevée, mais il ne l'avait pas reconnue. Alors, évidemment, c'est une sorte de coup de poignard, parce que tout d'un coup, ça l'a fait revenir à ses origines, et puis elle est un peu désemparée. Heureusement, je vous dis, c'est cet amour de son père et de sa mère, même si sa mère n'est pas là, même si elle est en Guadeloupe, elle a toujours le soutien de ses deux parents. Et son père va organiser donc son départ pour l'Angleterre, pour Londres. Et c'est là elle va arriver dans ce Londres, pas à la meilleure période, puisqu'elle arrive au moment de la grande puanteur. Aussi un événement qu'on a peut-être un peu oublié, mais c'est que Londres était une sorte de cloaque à l'époque. La Tamise, en plein été, ne charriait que des cadavres et des immondices, et ça sentait très mauvais. Donc elle
un
va arriver.
Comme Paris maintenant, quoi.
Oui, un peu comme Paris maintenant. Oui. En exagérant un tout petit peu.
Bon, il n'y a pas encore les cadavres. Ça va pas tarder. Et non, mais dans le sens de ma question, c'est est-ce qu'au tribunal, quand on lui a ressorti son passé, il y avait de la méchanceté ou pas, ou non,
oui, bien sûr, il y avait une agressivité. Bah, déjà, quand on lui ressort ça, ce sont il faut bien penser que les actionnaires qui ont tout perdu à cause de son mari, lui en veulent énormément. Et d'ailleurs, ils vont lui en vouloir jusqu'à pourchasser son mari, puisque son mari va mourir dans des conditions qui n'ont pas vraiment été élucidées, mais on suppose vraiment que quelqu'un a dû l'assassiner.
Voilà. Elle retourne quand même en Guadeloupe après. Elle retrouve sa maman.
Oui, c'est après la mort de son mari.
Voilà, c'est ça, elle retrouve.
Et surtout.
Et son père qui est très affaibli là.
Voilà, c'est ça. Au moment où son père. C'est à peu près dans les mêmes moments, elle va se retrouver veuve et au moment où son père ne peut plus venir la voir parce qu'il est trop affaibli et sa mère l'appelle en disant écoute, si tu veux le voir encore vivant, il faut venir. Elle laisse ses enfants à l'aîné, hein, puisque maintenant, les années ont passé, elle a 4 enfants, et elle va laisser les plus jeunes à l'aîné et elle va partir. Dans sa ville natale, son papillon, puisqu'on dit que la Guadeloupe est en forme de papillon, son île de rêve, et elle va se retrouver un peu de son enfance heureuse là-bas, avec le soleil et cette végétation exubérante. C'est son paradis.
Et elle assiste au mariage de Titine, au mariage posthume finalement.
Voilà, oui, elle existe, elle est, voilà. Et puis, ouais. Oui. Donc, c'est, pareil, elle va être reconnue en même temps. Donc reconnue en même temps que ses parents vont se marier d'abord civilement et ensuite religieusement juste avant la mort de Charlemagne.
Mais c'est aussi à ce moment-là qu'Aurélia aussi a envie d'en savoir plus sur sa mère.
Oui. Elle va lui poser 1000 questions.
Qu'est-ce qu'elle savait sur sa mère?
Pas grand-chose, parce que sa mère avait vraiment toujours un peu occulté sa propre enfance qui était douloureuse, parce que sa mère était vraiment esclave. Sa mère avait été ce qu'on
appelle. Elle interroge sa mère. Donc
oui, elle interroge. Avait été ce qu'on appelle une mabot en Guadeloupe, c'est-à-dire la gouvernante, la doudou des petits enfants blancs. Et elle avait été séparée de sa mère très jeune. Donc son père ne s'occupait pas d'elle. Son père qui était.
Et donc elle a été vendue à un notaire.
Oui. Voilà. Donc tout ça, c'était ce passé douloureux de sa mère. Il va ressurgir à ce moment-là. Elle va l'interroger. Elle va en savoir plus. Pour sa mère, c'est peut-être aussi une façon de tirer un trait sur cette période douloureuse et puis de transmettre la mémoire et puis surtout de prouver à sa fille combien elle a aimé son mari et combien elle a été heureuse avec lui.
Que retenez-vous de cette histoire, finalement, en termes de leçons sur l'histoire de France, sur, on va employer un mot pompeux à la mode, le mérite républicain, voilà.
Alors, d'abord, j'en retiens le courage d'une femme, parce que, comme je disais, c'est une histoire vraie. Et si je me suis intéressée à cette histoire, c'est parce que il y a un descendant de. Parce que c'est.
J'allais y venir.
Ah oui, d'accord.
Quel est le lien avec vous,
voilà,
Michel Dassas?
Alors, le lien, c'est un lien, tout simplement parce que cette fameuse Aurélia a épousé à un moment donné mon arrière-grand-père. Ouais. Bon, mais voilà, c'est après. Alors, je ne descends pas d'elle. Par contre, un ami guadeloupéen, un monsieur qui vit toujours là-bas, qui est descendant de l'historien Lacour, parce que c'est un historien qui Auguste Lacour, qui a retracé toute la vie des îles, qui est très connue là-bas, et qui était l'oncle d'Aurélia. Donc Charlemagne la Cour avait un frère qui était historien. Donc ce monsieur était passionné par Aurélia. Il avait recueilli des tas de documents. Et pendant le confinement, je me suis dit, c'est le moment de ressusciter Aurélia. Et j'ai fait des recherches et en vérité, j'ai trouvé ce scandale du dîner d'exposition qui ignorait Sainte-Croix-la-Cour, qui est donc mon acolyte, en quelque sorte, celui qui m'a donné envie d'en savoir plus sur Olivia et qui m'a apporté de précieux documents.
Sur Aurélia, vous voulez dire ?
Sur Aurélia, oui. J'ai dit sur qui ?
Sur Olivia.
Ah, sur Olivia, non, sur Aurélia.
Vous devez peut-être penser à Olivia Newton-John.
Non. Sur Aurélia. Voilà. Oui, alors donc ce que j'en pense comme ce regard que j'ai sur elle, c'est surtout sur la résilience. Moi c'est ça qui me frappe. Et sur ce désir aussi de parvenir à d'améliorer la vie de ses descendants, de faire mieux, de progresser, tout en conservant bien au fond de son cœur ses racines.
Et voilà, le dîner de l'exposition, ça permet aussi d'en savoir plus, cette fameuse exposition, ce fameux dîner de l'exposition qui a vraiment fait scandale. Tout ça, c'est une histoire vraie, évidemment. Le nouveau roman de Michel Dassas. Merci, Michel, d'être venu
Merci
nous en parler.
Beaucoup à vous.
Vous avez publié une quinzaine d'ouvrages, dont 9 romans. Vous avez eu la médaille d'or du mérite littéraire de l'association Art et Lettres de France. Votre nouveau livre est publié chez Ramsay, aux éditions Ramsay. Ça s'appelle Le dîner de l'exposition de Michel Dassas. Et vous êtes venue en voisine, puisque vous êtes aussi résidente secondaire, Pornichettine, cher Michel. Merci, à bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir.